tu es plus fort que tu ne le penses. Dis-le ça à ton frère, ou à ta sœur, à cette personne qui est à côté. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 12, et ça, la pensée que le Seigneur m'a donnée, c'est avant les événements. Hein. Vous savez, Dieu chapeaute tout. Si le monde est dans la crainte des événements à venir, le chrétien, lui, l'enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, a la paix. Il a la paix, il a l'assurance. Ces choses vont arriver, mais si nous sommes dans sa main, qui peut nous ravir de sa main? Et ça, c'est une assurance extraordinaire. Alors, première épître de Jean, chapitre 2, verset 12, il est écrit ceci, Jean écrira de la part de Dieu, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause de Jésus. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Je suis plus fort que je ne le pense. » Et frères et sœurs, il y a de nombreux exemples dans la parole de Dieu. Nous pouvons, n'est-ce pas, eh bien, voir dans le livre des Juges quand, eh bien, Dieu va intervenir dans la situation de son peuple d'Israël. Dieu, n'est-ce pas, ne laisse jamais son peuple, ses enfants, eh bien, dans le marasme. Et dans le livre des Juges, au chapitre 13, nous voyons quoi? C'est que, eh bien, Dieu va intervenir parce que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu va intervenir pendant 40 ans. Dans le livre des Juges, les Philistins étaient là pour, eh bien, amener Israël dans la désolation. Mais il y a toujours, eh bien, un lumignon. Il y a toujours une flamme. Et la Bible dit qu'il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoa. Sa femme était stérile, n'enfantait pas. Quelle situation! Quelle situation! Mais un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, etc. etc. » Nous voyons eh bien qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Amen! Rien, R-I-E-N. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. La situation, pendant 40 années, les Philistins étaient là. Imaginez un moment. Et là, eh bien, Dieu va intervenir non pas dans une famille où il y a de l'effervescence, mais là, dans un peut-être, monsieur Manoa va se poser des questions. Mon épouse est stérile. Que se passe-t-il? Et Dieu va intervenir. Parce que Dieu connaît le cœur, Dieu connaît tes sentiments, Dieu connaît tes objectifs, Dieu connaît tes pensées, Dieu sait, à lui rien n'est caché. Et si ce matin, tu veux voir la gloire de Dieu, eh bien Dieu te la fera voir, parce qu'il est celui qui est le saint, le juste et le vrai. Bien sûr, Dieu va donner des prescriptions. Il va donner à Madame Manoa, eh bien, les prescriptions, hein. Tu ne boiras ni vin, ni liqueur, etc., etc. Et sa femme va dire à son mari, au verset 6, un homme de Dieu est venu vers moi. Mais nous voyons, frères et sœurs, au verset 8 du chapitre 13, Manoa fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Quelle belle prière! que l'homme que tu as envoyé, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Si nous pouvions voir, frères et sœurs, avec les yeux spirituels, ce qui se passe dans les lieux célestes et même sur cette planète Terre, combien de choses peut-être nous effraieraient. Parce que le diable et ses démons sont au boulot. Il sait que son temps est limité. Et par tous les moyens, il essaiera. Et comme Jésus a dit, même s'il était possible que les élus de Dieu puissent tomber. Même. C'est à nous de prendre garde. Que l'homme qui est venu vers mon épouse revienne et nous dise les mêmes choses. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, viens me transformer. Alléluia. Je crois que ce cantique a été inspiré par le Saint-Esprit. Je ne veux pas me reposer sur mes lauriers du passé. Hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Alléluia. Souvent, c'est vrai que nous nous reposons sur nos victoires du passé. Mes frères et sœurs, c'est du passé, ça. Ça, c'est du passé. On a la nostalgie, peut-être, des choses du passé. J'ai vécu des choses extraordinaires dans le passé. À l'âge de 14, 16, 18 ans, j'ai vu des choses glorieuses de la part de Dieu. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi pas aujourd'hui? Est-ce que tu as changé? Dieu n'a pas changé, mais j'ai changé. Nous avons changé. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on se repose sur ce que nous sommes. On se repose, eh bien, sur notre intelligence. On se repose, eh bien, sur ce que nous avons appris. On se repose, eh bien, sur nos expériences. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose de neuf. Alléluia! C'est pour cette raison, frères et sœurs, que chaque année, quand le moment vient de la préparation pour le Congo, il y a une préparation. L'année passée, c'était une autre expérience, mais l'expérience que nous allons vivre sera peut-être différente. Mais là, dans cette expérience, Dieu veut te former. Imaginez un moment que la maman de Samuel, la Bible dit qu'elle amenait chaque année une nouvelle robe à Samuel. Hein? Imaginez que chaque année, la même robe avec les mêmes dimensions, les mêmes souliers pointures. Hey. Vous savez qu'un enfant, son pied grandit, hein? Oui. Nous grandissons, nous devons grandir dans cette connaissance, dans cette intimité, dans cette transformation, Seigneur. Transforme-moi. Il y a des années que je ne comprenais pas ce que je comprends aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux mieux te servir, mieux t'aimer, mieux être à ta disposition. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, eh bien, notre chair, notre moi, notre caractère, ce que je pense, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens. Mais tout cela, frères et sœurs, doit être au second plan. Toi, Seigneur. Et Dieu va intervenir. Et Dieu va donner à Monsieur Manoa, eh bien, les mêmes ordonnances pour ce fils Samson. Samson veut dire soleil. Dieu voulait un libérateur pour Israël. Et il est venu. Et nous avons eu aujourd'hui Jésus, alléluia, le libérateur des libérateurs, qui a été fidèle en toutes choses et qui a remporté la victoire des victoires. C'est vrai que tant que Samson était sous l'injonction du Saint-Esprit, il était fort. Il y avait un signe. Le rasoir ne passera pas sur ta tête. Il y a des signes, frères et sœurs, que Dieu a mis sur ta vie, alléluia, sur ton cœur, mais que jamais tu puisses le troquer pour des choses futiles de ce monde. Combien ont perdu le salut? On peut perdre le salut. Hein. Le salut n'est pas éternel. Hein. Il y a aujourd'hui une idée, oui, que quand on est sauvé aujourd'hui, on sera sauvé pour l'éternité. Ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est faux. Tu as pris le départ, mais combien arriveront à l'arrivée? Le salut, c'est chaque jour. C'est chaque jour que je dois, eh bien, me reconvertir. C'est chaque jour que je dois revenir à la croix du calvaire et demander que le sang de Jésus me lave, me purifie, me transforme. Chaque jour. Et frères et sœurs, tant que Samson était sous l'injonction du Saint-Esprit, il remportait des grandes victoires. Il était, eh bien, la terreur, alléluia, des Philistins. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu sois la terreur du démon et du diable. Parce que tu as reçu l'autorité de ton père. Mais nous voyons qu'un moment est venu où il a pris congé de Dieu. C'est vrai, la tactique de l'ennemi est subtile. Le diable attend toujours le moment propice. Il attend toujours le moment où il pourra intervenir. C'est pour cette raison, la Bible dit, veille au matin, veille à midi, veille le soir. Mon frère, ma sœur, ce matin, n'y a-t-il pas dans ta vie des lézardes, dans l'habitation où l'ennemi peut s'y infiltrer? Veille, sois sur tes gardes. C'est pour cette raison que Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Cela ne veut pas dire être 24 heures sur les genoux, non. Mais que la nourriture de la parole de Dieu soit journellement pour nous. Combien aujourd'hui d'enfants de Dieu prennent la parole de Dieu comme un sandwich? Vous savez, Dieu n'est pas le snack bar, hein. Il y a un moment, entre dans ta chambre et la prie. Le sérieux avec Dieu. Dieu est sérieux avec nous. Jésus a tout donné. Il n'est pas mort à moitié, comme certains pourront le dire. Il ne s'est pas évanoui, etc., etc., etc. Hein. Certains ont dit, mais non, c'est même pas lui, c'est son sosie, etc., c'est quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit, tout est accompli. Alors, frères et sœurs, c'est vrai qu'un moment est venu où Samson a pris congé de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Oh, bien sûr, Madame Delila est venue plusieurs fois à essayer de l'importuner, à essayer de lui dire, mais de où vient ta grande forme? Et bien sûr, il va prendre cela à la rigolade, tu feras ceci, tu feras cela. Vous savez, frères et sœurs, quand on joue avec le feu, tôt ou tard, on s'y brûle. Hein. Quand on joue avec le péché, tôt ou tard, on tombe dedans. Rien pourra dire Abraham à ce roi, même pas la courroie des souliers, rien. Jésus pourra dire, qu'y a-t-il entre moi et lui ? Jésus est la lumière du monde. Et que s'est-il arrivé? C'est que, eh bien, il a ouvert son cœur. Il a dit, eh bien, le rasoir n'est pas passé, mais si on me coupe, je serai comme un autre homme. Combien ont perdu, excusez-moi l'expression, l'onction du Saint-Esprit dans leur vie? Combien ont une forme, peut-être, mais non plus la force, non plus l'autorité, non plus l'audace, non plus ce punch. Samson, les Philistins sont sur toi, je m'en dégagerai comme les autres fois. Oui. Où es-tu ce matin? Où suis-je? Tu es plus fort que tu ne le penses si tu es sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il était dans la prison, mais avec Dieu, il y a toujours un moment où il veut, eh bien, agir tout à nouveau. Alors ce matin, si tu es dans cet état, il veut eh bien te redonner ce punch. Et dans la prison, il dira, eh bien, fais-moi justice. Il a prié, il a reconnu. La Bible dit, reconnais seulement ton péché. Comme Dieu pourra dire à Israël, mais reconnais. Et je suis là, eh bien, pour te redonner. Il est la source. Ne t'endurcis pas, mais reconnais. Où en suis-je? Où en es-tu, mon frère, ma sœur? Et bien sûr, les Philistins l'ont pris pour un pantin, mais Dieu eh bien, est revenu en lui. Il lui a donné la force eh bien, d'intervenir. Avec Dieu, rien n'est fini. Alléluia. Le deuxième exemple que nous pouvons voir, c'est David. Ce jeune David, hein. Bien sûr, il n'était pas aussi top. Louis d'or dans 1 Samuel. Mais nous voyons quoi? C'est que David avait un cœur droit. David a su reconnaître, eh bien, son péché, a dû reconnaître là où il est tombé. Bien sûr, il a eu le prophète qui lui a dit, mais c'est toi. Et nous voyons, frères et sœurs, eh bien, c'est que Dieu l'a relevé. Notre Père est un Père qui nous aime. Et tant que David était sous l'injonction du Saint-Esprit, il remportait de grandes victoires. Bien sûr, c'était le plus petit de la famille. Les grands frères sont partis à la guerre, combattent les Philistins. Et David, eh bien, est parti garder les troupeaux. Peut-être tu te dis, mais moi je suis le rejeté. Je suis le plus petit de la famille. On ne s'occupe pas de moi. Et nous voyons quoi? C'est que même David, sur les montagnes, avec son troupeau, la Bible dit qu'il louait l'Éternel. Et aujourd'hui, nous avons, à travers des psaumes, etc., eh bien, ces paroles merveilleuses. Dieu le formait. Tu peux être peut-être pendant un certain temps rejeté. Mais n'aie pas de l'animosité, n'aie pas de la haine, n'aie pas, eh bien, de la crainte, n'aie pas un regard, eh bien, colérique. Si Dieu, eh bien, te met de côté, c'est pour te former en vue de grandes choses, alléluia. Et David, eh bien, sur les montagnes, là, pouvait chanter les louanges de l'Éternel, et je m'imagine que si ses frères étaient en bas pour faire la guerre aux Philistins, lui était dans la paix, la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, le monde est dans l'hypnose et le monde est aujourd'hui pris dans tout cet engrenage. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, eh bien, est en Jésus-Christ. Cette paix la possèdes-tu? Bien sûr, un moment est venu où son père va l'appeler. Un moment, eh bien, viendra où Dieu, eh bien, te donnera la mission, t'en confiera quelque chose de grand, d'extraordinaire. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi, eh bien, de se manifester, parce que tu es son ami, tu es, eh bien, sa créature, tu es son enfant. Et David va descendre, va donner, eh bien, ce troupeau à un gardien. Et son père va lui dire, eh bien, voilà, toute la nourriture, va voir tes frères et tu m'en donneras des nouvelles. La direction de Dieu, frères et sœurs, est extraordinaire. Et David, eh bien, prend les provisions, il ne s'attend pas à ce que Dieu va faire. Et il part. Dieu voit sa motivation, Dieu connaît son cœur. Et là, en arrivant sur le champ de bataille, pendant 40 jours déjà, eh bien, ce géant Goliath haranguait Israël et le roi Saül dans toute sa hauteur tremblait. Et David va entendre ses propos. Donnez-moi un homme et nous irons nous battre. Bien sûr, David n'est qu'un gringalet. David est un beau jeune homme, blond, de beaux yeux. Mais il n'est pas un homme de guerre. Il n'a rien à faire sur ce champ de bataille. Le diable peut-être, eh bien, va te ridiculiser. Ou même, ceux qui sont près de toi vont dire, mais tu es un incapable, mais cela n'écoute pas. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose de glorieux. Alléluia! Quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Même ses frères vont lui dire, mais tu es un orgueilleux, un prétentieux, un vaniteux. Et il va les laisser. Mon frère, ma sœur, quelle est ta vision ce matin? Et David, eh bien, ne peut rester insensible. Et il va aller sur le terrain. Bien sûr, Saül va l'appeler. Vous savez, l'ennemi a sa tactique. Hein? Quand il voit, eh bien, que l'Église, que le chrétien commence à bouger, à faire la volonté de Dieu, eh bien, le diable n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce que nous allons dans son camp chercher ceux et celles qui sont perdus. Alors Saül va l'appeler et va lui donner son armure. Et la Bible dit, quand il voulut marcher, il ne put. Ne nous afflublons pas des choses de ce monde. La convoitise de ce monde passe. Tout dans le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'as-tu à craindre? Qu'as-tu à craindre? Qu'as-tu? Et David, eh bien, que va-t-il faire? La Bible dit, il va se débarrasser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout le matériel. Hein? Téléphone, smartphone, ordinateur, etc., etc. Mais as-tu la relation avec lui? Vous savez, à l'école biblique, un de nos professeurs nous disait, combien de temps vous lisez la parole de Dieu? Le journal de Dieu, combien de temps? Et c'est le même journal, hein? Combien de temps? Est-ce que vous en savez? Des psaumes? Est-ce que vous connaissez des versets? Est-ce que vous pouvez me lire un chapitre de tel et tel livre? Oui. Et pourtant, vous lisez. Mais est-ce que ça rentre pas là, ça sort là, ça rentre pas là, et puis pfff! C'est vrai. Et David s'est débarrassé. Prenons, frères et sœurs, l'armure du chrétien éphésien, casque du salut, épée de l'esprit, ceinture de vérité. Imaginez, excusez-moi l'expression, une personne qui est bien à un pantalon et qui n'a pas de ceinture. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pantalon va descendre. Hein? Oui, la ceinture qui nous tient, les reins. Les chaussures que nous donne le zèle de l'Évangile, la cuirasse, tous les traits enflammés, frères et sœurs, pourront venir, mais ils vont se fracasser. Parce que Christ est ma justice, alléluia. Et David s'est débarrassé de tout cela. Il est allé au torrent. Est-ce que tu as soif de Dieu? Qu'aspires-tu ce matin? Des fleuves d'eau vive ou un mince filet? As-tu soif de ce Dieu? As-tu soif de sa présence? Aspires-tu à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus merveilleux, d'entrer dans le plan qu'il a prévu pour toi? Ou est-ce que tu veux rester sur le rivage? As-tu soif? Vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des vents aujourd'hui contraires qui soufflent. Il y a des tsunamis, il y a des tempêtes qui soufflent. Et vous savez que même les plus grands immeubles seront balayés. Hein? Mais la parole de Dieu qui est le roc, elle restera. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il s'est débarrassé, il est allé au torrent et il a pris 5 pierres polies. On va faire une étude sur cela. Tant que le Saint-Esprit était sur lui, Eh bien, ce jeune garçon a fait des choses extraordinaires. Et il est allé dire à ce Goliath, toi tu viens avec la lance et le javelot, hein. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Ouais. Seigneur, ce que je suis, c'est par ta grâce. Ce que je fais, c'est par l'assistance de ton esprit. Et je bénis le Seigneur pour, eh bien, nos sœurs qui chantent, pour ceux qui s'engagent, pour vous qui vous engagez, que ce soit matériellement ou autre, merci. Mais Seigneur, je veux faire davantage, parce que je sais qu'un jour, eh bien, tu me diras, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et David est allé. Et même si David était un fin tireur, je crois une chose, frères et sœurs, c'est que Dieu a dirigé la pierre qu'il fallait, et là où il fallait. Alléluia! Parce que la victoire ne t'appartient pas, mais la victoire appartient à Dieu. Amen! La victoire appartient à Dieu. Alléluia! Mais merci Seigneur, parce que l'instrument que je suis, aussi faible que je suis dans tes mains, est un instrument qui fait des choses extraordinaires. Un marteau, bien, va faire des choses qu'un tournevis ne pourra pas faire. Mais un tournevis, on a besoin pour visser, hein, un cruciforme. Vous n'allez pas prendre un marteau. Mais chaque instrument a sa spécificité. Et chacun d'entre nous, nous avons notre spécificité. Alléluia! Frères et sœurs, ne prenons jamais congé de Dieu. Le troisième exemple, c'est Gédéon. Dans toute sa faiblesse, que suis-je? Que sommes-nous? Gédéon. Gédéon veut dire coupant, abattant. Dans le livre des Juges, au chapitre 6. Et quand vous lisez le livre des Juges, vous verrez que c'est toujours dans des périodes où, eh bien, Israël s'est détourné de Dieu. Oh, bien sûr, ils avaient peut-être la Torah. Ils avaient peut-être le rituel. Ils avaient le temple. Ils avaient, eh bien, ces choses-là, mais il n'y avait plus, frères et sœurs, l'essence. Il n'y avait plus l'onction, il n'y avait plus le feu, il n'y avait plus, eh bien, la sainteté, la pureté. C'est cela. Et Dieu va se servir de ce jeune homme. Dieu ne cherche pas des grandes personnes, hein. Dieu te cherche, toi, qui que tu es. Et c'est vrai que souvent, quand Dieu nous appelle, on dit, mais Seigneur, que suis-je? J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin du secours de ton esprit. J'ai besoin que tu me transformes. Et le Seigneur dira, et je te transformerai et je ferai de toi ce que je désire. Là, Israël, Israël, peuple de Dieu, pendant 7 ans, les Madianites venaient, faisaient des ravages. Mais il y avait un jeune homme là, Gédéon, qui ne voulait pas, eh bien, que la récolte soit pour les Madianites. Et il va battre le froment au pressoir. Imaginez, pressoir, froment. Mais imaginez aussi, eh bien, l'état de son cœur, quand il battait le froment pressoir. Dieu voit tes motivations, Dieu voit ton désir, Dieu voit, ou bien est-ce que tu es en train de bougonner, en train de maudire, ou en train de dire, Seigneur, fais de moi dans les temps difficiles. Oui, j'ai perdu du temps, peut-être j'ai regardé en arrière, peut-être, eh bien, j'ai été découragé parce que je regardais Pierre, Paul, Jacques. Mais ce matin, je prends l'initiative de regarder à toi qui est mon sauveur. Alléluia! Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas un homme qui vous a sauvé, ce n'est même pas moi. Mais c'est Dieu qui vous a sauvé au travers de Jésus. Et le Seigneur vous appelle, lui, à être, eh bien, ce témoin. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Alléluia! Et je peux m'imaginer que quand il battait le froment, il disait, si je pouvais les avoir, hein, Hein, je ne ferai qu'une bouchée avec eux. Et il y a l'ange qui regarde. C'est vrai, souvent Dieu nous regarde. Peut-être vous êtes étonné, mais Dieu te regarde. Ouais. Les anges te regardent. Un ennemi te regarde. Les démons te regardent. Mais les démons ne peuvent pas entrer en toi. Parce que celui qui vit en toi est plus grand. Mais comment toi tu vas réagir? Et l'ange lui dit, jeune homme, vaillant héros. Ouh! Quelle gratitude, hein? Je monte en grade, hein? Hein? J'ai mes diplômes. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Mais regardez, il n'y aura pas vaillant héros, il dira l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cela veut dire que Dieu avec lui, il sera un vaillant héros. Vous saisissez? Souvent on dit dans le monde, oh, tu es un vaillant héros, hein? T'es quelqu'un, toi. T'as bac plus 5, bac plus 10, etc., etc. Mais non, là, l'Éternel est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, tu es un vaillant héros. Alléluia! Parce que Dieu va agir avec lui et Dieu va travailler avec lui. Et bien sûr, j'ai dit, on va dire, mais je suis le plus petit de la famille. Tu vois ma famille, comment elle est? Dans la déprime, dans la désolation, tu vois les magnanites, tu vois, eh bien, les difficultés, tu vois les épreuves. Et aujourd'hui, Seigneur, tu me vois dans mon état. Peut-être de lassitude, notre sœur, elle disait que hier elle était fatiguée, avec peut-être de nombreuses choses, mais le Seigneur l'a renouvelée. Seigneur, tu me vois. Frères et sœurs, ne cachons rien à Jésus. Disons-lui tout. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais, Seigneur, eh bien, mes difficultés. Quelles qu'elles soient, interviens, aide-moi, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton intelligence, donne-moi ton discernement, donne-moi ta parole, eh bien, qui vient de toi. Seigneur, donne-moi. Et croyez-vous que le Seigneur vous donnera une pierre? Non? Il donnera ce dont tu demandes. Mais bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans un siècle où il faut tout de suite. Seigneur, tout de suite, j'ai besoin de cela. Mais Dieu, lui, a son temps. Dieu veut te former, Dieu veut te travailler. Dieu veut t'amener à son image. Vous savez, l'argile, frères et sœurs, quand le potier prend, c'est une masse informe, hein. Et que va-t-il faire? Eh bien, il va la malaxer. Il va la travailler. Et s'il y a des petits cailloux, il va les enlever. Hein? Comme la pâte à modeler, hein. Les enfants, ils aiment la pâte à modeler, mais au début, elle est un peu dure, hein. Et il faut la travailler, il faut la chauffer, hein. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Souvent, eh bien, nous avons nos vies, nos caractères, nos petits cailloux, hein, et Dieu veut les enlever. Alors là, on dit, oh, ça fait mal, Seigneur. Oh, non, non, pas là. Non, garde. Non, j'aime tellement ça. Jésus, un petit peu. C'est tout ou rien? C'est tout ou rien? Il n'y a pas de petits péchés, hein. Dans une certaine religion, il y a des petits péchés ou des grands péchés, péchés mignons, péchés ceci. Mais Christ est mort pour tous les péchés. Quel que tu puisses mettre le nom, il est mort pour tous les péchés. Et il est ressuscité pour ta justification. Je suis le plus petit de la famille. Dieu ne s'arrête pas là. Bien que Dieu sait. Bien que l'Éternel sait qu'il est le plus petit de la famille, mais le programme de Dieu, c'est le mener à être le libérateur. Souvent, c'est vrai, la Bible dit, levez les yeux.
Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours marcher comme ça, hein? Non.
Spirituellement, Seigneur, le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Toi qui domines sur les astres, toi qui connais tout.
Et aujourd'hui, eh bien, on a une astronaute qui est, n'est-ce pas, hein,
voilà, sur la station, elle a regardé la Terre. Imaginez, frères et sœurs, quand Dieu regarde la Terre. On est des fourmis, nous, hein. Eh? Ouais, Dieu voit.
Bon, elle ne voyait que l'extérieur, mais Dieu voit à l'intérieur. Dieu voit, me voit à l'intérieur, Dieu nous voit à l'intérieur.
Alors, c'est vrai que le potier, lui, il a en vue de faire tel vase.
Alors souvent, nous, on disait, Seigneur, non pas comme cela, mais comme ça. Moi, je veux faire ça. Moi, je désire être comme ceci. Moi, je veux être comme là. Moi, je veux être comme cette star de cinéma ou cette star de telle et telle personne. Non!
Dieu nous fait comme lui le désire.
C'est pour cette raison que je disais toujours à mes enfants, tu as, eh bien, ta personnalité. Il ne faut pas copier sur Pierre-Paul Jacques.
Tu as ta personnalité. Et c'est vrai. Nous sommes des créatures nouvelles.
Et ça, frères et sœurs, est une chose extraordinaire.
Parce que Dieu va l'amener, eh bien, dans le processus de, eh bien, sa direction vers la victoire. Mais bien sûr, il y a plusieurs étapes.
Le temps passe.
Mais tant que Gédéon était sous l'injonction du Saint-Esprit, il accomplissait la volonté de Dieu. Et il n'avait pas la crainte de pouvoir dire, eh bien, qu'est-ce qu'il va m'arriver, parce qu'il savait que le Seigneur sera avec lui.
Si nous sommes dans sa main, qui pourra nous ravir de sa main, frères et sœurs?
Tant qu'ils étaient sous l'injonction du Saint-Esprit, Gédéon, David, Samson et bien d'autres étaient forts. Parce qu'on est fort avec Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7.
Sans le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes faibles. C'est pour cette raison que Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Et le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Amen! Non pas une petite vérité, mais dans la grande vérité. Pas de force sans la sainteté. Dieu est saint. Et déjà, frères et sœurs, dans le Lévitique, Dieu va parler à Israël. Lévitique,
au chapitre 11, verset 44.
Dieu dira ceci. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs de tous ces reptiles, etc., etc. Je suis saint. Dieu est saint. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, Seigneur, oui, je veux que tu me transformes jour après jour. Alors, frères et sœurs, dans cette force qui, eh bien, sera en nous. Parce que celui qui est notre force, c'est Jésus. Jésus personnifié. Non pas un Jésus mis, n'est-ce pas, peut-être au grenier ou à la cave, mais un Jésus qui a toute autorité, qui a la seigneurie totale de nos vies.
Parce que, premièrement, Jésus, sa force se trouvait dans l'amour.
Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Dieu en premier. Dieu est amour. L'amour de Dieu, frères et sœurs, est quelque chose d'inconditionnel. Dieu s'est donné.
Et nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne s'enfle pas, etc. Vous connaissez tout cela. Et Dieu avait donné à Israël, eh bien, dans le livre de l'Exode, les 10 commandements. Il est amour. Tu aimeras le Seigneur, dira Jésus. Alors cette force se trouve dans cette personne extraordinaire qu'est Jésus. Merci parce que je suis environné de ton amour. Merci parce que ton amour, eh bien, un jour m'a saisi. Et je me suis converti, je me suis engagé. Mais aujourd'hui, je veux que cet amour grandisse afin que là où tu m'as placé, je puisse transmettre cet amour à mes concitoyens. Son amour. La force de Dieu, frères et sœurs, la force de Jésus était quoi? Son humilité, deuxième caractère, modèle que nous trouvons en Jésus. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 5, nous dit ceci. Lui qui était le maître de toutes choses, Jean 13, 5. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils étaient saints. Nous voyons quoi? Eh bien, c'est que Jésus va, eh bien, s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples. Quelle humilité! La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, l'humilité n'est plus dans le concept de l'homme. Aujourd'hui, quelle que soit, eh bien, la direction, quelles que soient les sphères de la société, c'est l'orgueil, c'est la prévention, c'est, eh bien, écraser son prochain. Mais Jésus, lui, s'est humilié. Afin de nous élever, alléluia. Le diable ne s'humiliera jamais. Jamais. Tandis que Jésus s'est humilié afin, eh bien, de nous donner la victoire. L'apôtre Paul dira ceci, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez les sentiments. Merci Seigneur pour ton humilité. Parce que par ton humilité, je réalise combien peut-être je suis encore orgueilleux, prétentieux, vaniteux, ayant toujours, eh bien, une parole pour montrer que je suis supérieur. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jésus s'est humilié. Il connaissait le cœur de tous ses disciples. Il aurait pu dire, toi Pierre, tu vas me renier. Bien qu'il l'a dit, mais Pierre n'a pas saisi. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Seigneur, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ah non, allons. Qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Tu sais bien que je t'aime. Oui, mais quel amour aimait-il? Quel amour? Jésus savait. Jésus nous connaît. Seigneur, merci parce que ce matin, c'est vrai, au travers de ce repas, qui me montre ton humiliation, mais qui me montre aussi ta gloire, qui me montre aussi ta majesté. Parce que, frères et sœurs, si dans le monde, ces choses-là est mis de côté, dans le ciel, cela est mis en valeur. Parce que Jésus, par son humiliation, nous fait entrer dans la présence de notre Père. Alléluia. Il aurait pu, eh bien, s'arrêter à la croix. Il aurait pu appeler des légions d'anges. Il aurait pu, eh bien, intervenir. Il aurait pu, eh bien, dire, moi, je suis Dieu. Mais il n'a rien dit. Il s'est laissé. Il a reçu le fouet. Il s'est laissé crucifier. Il s'est laissé planter. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, au travers de son sacrifice, eh bien, nous sommes sauvés. Alléluia! Et le diable, eh bien, n'a rien à revendiquer de cela. Parce que Jésus a tout accompli. Son humiliation nous élève. Amen! Et frères et sœurs, quand nous nous humilions devant la main de notre Père, il nous élève, alléluia. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grand. Il y a d'autres points, mais nous allons pouvoir voir cela une autre fois. Oui, Seigneur, je suis fort plus que je ne le pense, parce que si l'onction de ton esprit est sur moi, en moi, et si ta parole est jour après jour ma nourriture, alors je peux avancer en ayant les regards sur toi, parce que tu es le chef et le consommateur de ma foi. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, non. Mais Seigneur, je veux mettre à profit, comme David est allé au torrent. Seigneur, je veux mettre à profit, comme eh bien Gédéon, qui n'a pas voulu que les Ménianites eh bien volent. Seigneur, tu connais, eh bien, l'intérieur, les désirs de mon cœur, c'est de voir ta gloire. Alléluia! Seigneur, merci, parce que tu t'es servi de Samson, et tu veux faire de moi, eh bien, celui dont, qui sera la crainte de mes ennemis. Mais jour après jour, je veux que ton onction, que ta main soit sur moi, et la victoire nous appartient, parce que, frères et sœurs, il est notre victoire. Alléluia! Il est ma victoire et il est ta victoire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que si nous regardons à nous-mêmes, que sommes-nous? Mais Seigneur, ce matin, ce n'est pas à nous, même à nos qualités que nous voulons regarder, mais à toi, qualité suprême, qualité extraordinaire. Seigneur, merci, parce que dans tout ce que tu étais, force, royauté, tu t'es humilié, afin de nous donner aujourd'hui, là où tu nous as placés dans ce monde, Seigneur, cette autorité, cette puissance, cette onction divine qui nous fait avancer malgré que le monde est dans la crainte, dans la peur des événements futurs. Mais Seigneur, pour l'Église, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu étant en toi, qu'a-t-il à craindre? Sinon, Seigneur, qu'un jour nous serons avec toi pour l'éternité. Mais dans ce laps de temps, Seigneur, comme David est allé au torrent, Seigneur, oui, je veux dire, nous voulons te dire, j'ai soif d'un renouveau spirituel. J'ai soif d'une remise tout à nouveau, de ma consécration, de mon témoignage, de ma vie de chrétien, de chrétienne. Seigneur, ce matin, oh merci, parce que tu ne veux pas, même dans le désert que nous pouvons traverser, tu l'as dit, que dans le désert, tu es avec nous. Alors Seigneur, si un de mes frères ou de mes sœurs passe par ce désert de l'incompréhension, le désert, Seigneur, eh bien, des disputes ou autres, Seigneur, tu es là. Et tu es sa source. Tu es, Seigneur, eh bien, celui qui veut le désaltérer. Seigneur, oui, notre âme, veux-tu dire, mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia! Parce que, Seigneur, toi, tu n'as pas changé. Et ce matin, tu veux faire de chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours spirituel, des hommes et des femmes, à ta gloire. Bénis ton peuple. Et bénis, Seigneur, ceux et celles qui n'ont pu monter. Merci, parce que même avec nos faibles moyens, tu bénis nos frères et nos sœurs qui sont au Congo, les mamans âgées, veuves, Seigneur, tu les bénis et tu réjouis leur cœur. Alléluia! Et nous te louons, parce qu'un jour, Seigneur, pour eux et comme pour nous, ce sera la félicité pour l'éternité. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen! Amen. Amen. Eh bien, avant de pouvoir nous séparer, il y a encore aussi, on va chanter ce petit chœur que vous connaissez tous. Non, pas je suis fort, mais joyeux anniversaire pour notre sœur Jessica. Demain, elle a son anniversaire, mais on va le faire aujourd'hui, hein. OK?